VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel, 13h30 dans la capitale américaine. Bienvenue à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jacques Aristide en votre compagnie à la une de l'actualité en ce vendredi 15 novembre 2019. En Guinée, trois protestataires tués par balle après la dispersion d'une nouvelle manifestation contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. En RD Congo, un père et ses cinq enfants tués malgré des offensive de l'armée contre des rebelles ougandais dans le Nord Kivu. Les vols de South African Airways cloués au sol en raison d'une grève du personnel navigant et technique de la compagnie aérienne sud-africaine. Dans la partie magazine, le patron du groupe Alibaba rencontre de jeunes entrepreneurs africains à Lomé.
Il faut être tenace, qu'un business ça peut échouer, mais il faut toujours recommencer.
En tant que jeune entrepreneur, nous devons plutôt mettre l'accent sur la ressource humaine.
Dans l'actualité américaine, nouvelle audition publique au Congrès dans le cadre de l'enquête pour une éventuelle mise en accusation du président Donald Trump. Et ne manquez pas non plus vos rendez-vous habituels avec l'économie et les sports dans environ 10 minutes. Cap sur la Guinée pour ouvrir ce journal. Trois personnes ont été tuées par balle lors des heurts survenues hier à Conakry, d'après un bilan mis à jour aujourd'hui. Le drame s'est produit après la dispersion par les forces de l'ordre d'une nouvelle manifestation contre un éventuel troisième mandat du chef de l'État Alpha Condé. De la capitale guinéenne, le compte-rendu de Zakaria Camara.
La présence des forces de l'ordre ce matin sur la route Le Prince a vite tourné aux violences. Un jeune élève a été mortellement touché par balle à Amdalaï, quartier périphérique de Conakry. Ce cas vient s'ajouter aux trois victimes, trois jeunes tués à bout portant selon un communiqué du Front National pour la Défense de la Constitution. Jeudi, des violences ont été signalées pendant plusieurs heures après la dispersion des manifestants par les forces de l'ordre à Conakry. Le chef de file de l'opposition guinéenne parle de répression sauvage. Le ministre guinéen de la Sécurité précise à son tour qu'à aucun moment les opérations de maintien de l'ordre n'ont ciblé un véhicule ou une personne en particulier. Présent à Conakry, Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, a rencontré plusieurs responsables de la classe politique guinéenne. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
En République démocratique du Congo, six civils ont été tués par les rebelles d'origine ougandaise ADF à Oicha dans le Nord Kivu. Il s'agit d'un père et de cinq enfants. La tuerie survient en dépit des opérations d'envergure que mène l'armée congolaise dans cette partie du pays depuis 15 jours. Yakuba Ouedraogo pour les détails.
Nous sommes au regret de constater la mort de six civils, un père et ses cinq enfants, à Oicha, œuvre des ADF, a déclaré Donat Kibwana, administrateur du territoire du Bénin. Il a ajouté qu'il y a aussi trois blessés, dont un enfant. L'armée affirme qu'une de ses patrouilles s'est heurtée aux rebelles qui avaient pu contourner les positions des forces régulières. 25 civils ont été tués dans des attaques attribuées aux rebelles ADF depuis le lancement des opérations militaires le 30 octobre. Les populations reprochent à l'armée de concentrer ses opérations dans les environs de Beni et non vers la frontière ougandaise. Les rebelles musulmans ougandais sont présents dans le nord-est de la RDC depuis 1995. Ils sont accusés du massacre de plus d'un millier de civils dans la région de Beni. Le groupe État islamique a revendiqué certaines attaques en début d'année, mais jusqu'ici, il n'y a aucune preuve d'une affiliation des rebelles ADF au groupe djihadiste.
La compagnie aérienne South African Airways a annulé plus de 300 vols aujourd'hui en raison d'une grève. Son personnel navigant et technique réclame des augmentations de salaire et dénonce des suppressions d'emplois. Davantage avec John Linden.
Les vols annulés touchent des liaisons intérieures et internationales aujourd'hui, vendredi et demain samedi. La compagnie aérienne a proposé aux passagers de s'enregistrer sur d'autres vols ou auprès de compagnies aériennes affiliées. Elle a cependant annoncé son intention de reprendre les vols internationaux d'ici à dimanche soir. Selon les syndicats, plus de 3000 employés au sol et en cabine sur les 5000 salariés de la compagnie participent à la grève. Les syndicats demandent une augmentation de salaire de 8% et une garantie d'emploi pour 3 ans. La compagnie propose une augmentation de 5,9% et les négociations ont échoué. Nous poursuivrons notre grève jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites, a fait savoir l'un des syndicalistes. Selon le président de l'Association sud-africaine des personnels de cabine, des discussions suspendues devraient reprendre demain samedi. La South African Airways, avec une flotte de plus de 50 avions, est en pleine turbulence financière malgré les nombreux prêts du gouvernement pour tenter de la sauver.
Au Mozambique, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours déposé par la RENAMO, le plus grand parti d'opposition, pour obtenir l'annulation des résultats des élections générales du 15 octobre dernier, remportées par le parti au pouvoir, le Frelimo. La Cour juge que la RENAMO n'a pas fourni assez de preuves à l'appui de sa plainte. Le parti accusait le gouvernement de fraudes électorales massives et d'avoir eu recours à la violence et à l'intimidation le jour du scrutin, malgré la signature en août dernier d'un accord de paix avec le gouvernement pour mettre un terme définitif à plus de 40 ans de conflit. En Algérie, à 48 heures de l'ouverture de la campagne de la présidentielle prévue le 12 décembre prochain, les manifestants sont à nouveau descendus dans la rue pour dire non à un scrutin destiné, selon eux, à régénérer un système dont ils veulent se débarrasser. Après avoir obtenu en avril dernier le départ d'Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans, le Hirak, le mouvement de contestation inédit apparu le 22 février dernier, refuse de s'essouffler. La mobilisation était encore massive pour ce 39e vendredi consécutif de manifestations malgré la pluie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, une passe d'armes à distance, mais en direct, a opposé le président Donald Trump et l'ex-ambassadrice américaine à Kiev, qu'il a critiqué au moment même où elle était entendue au Congrès dans l'enquête préalable à une éventuelle mise en accusation du locataire de la Maison-Blanche. Les précisions avec Nanit Talani.
Partout où Marie Yovanovitch est passée, les choses ont mal tourné, a tweeté le président américain en référence à la diplomate qu'il avait brusquement rappelée à Washington en mai. Elle a débuté en Somalie et regardez comment ça s'est terminé, a-t-il ajouté. Un président américain a un droit absolu de nommer les ambassadeurs, a-t-il encore écrit, en assurant avoir une politique étrangère très forte et puissante, très différente de celle des administrations précédentes. Peu après, l'élu démocrate Adam Schiff, en charge de l'enquête visant Donald Trump, a lu ses messages à Mme Yovanovitch alors qu'elle était interrogée lors d'une audience retransmise en direct à la télévision. « Ces attaques sont très intimidantes », a commenté la diplomate en défendant son bilan. « Je ne crois pas avoir de tels pouvoirs ni à Mogadiscio en Somalie ni ailleurs. Et je pense qu'au cours des années, j'ai plutôt amélioré les choses pour les États-Unis et les pays où j'étais en poste », a-t-elle ajouté. C'est la troisième personnalité à être entendue dans l'affaire dite ukrainienne.
L'armée israélienne a reconnu ce vendredi des victimes civiles inattendues, dit-elle, dans une de ses frappes cette semaine contre le djihad islamique à Gaza, où un accord de cessez-le-feu demeure fragile, après des affrontements ayant fait une trentaine de morts. Signe de la précarité de cet accord, Israël a frappé dans la nuit de jeudi à vendredi des cibles du groupe armé djihad islamique dans la bande de Gaza après des tirs de roquettes sur Israël, défiant la trêve en vigueur depuis hier matin. Or, peu avant son entrée en vigueur, les forces israéliennes avaient bombardé des habitations à Deir al-Bala, dans le sud de la bande de Gaza, enclave palestinienne de 2 millions d'habitants et qui est sous blocus israélien. La plus haute autorité chiite d'Irak affirme que le pays sera marqué à jamais par les semaines de manifestations réclamant des réformes et le départ d'une classe politique. Il s'agit d'une nouvelle marque de soutien à cette inédite contestation. Le grand ayatollah Ali Sistani a déclaré aujourd'hui que les autorités devraient agir rapidement pour répondre aux revendications des Irakiens qui se mobilisent à Bagdad et dans les villes du sud pour dénoncer leurs difficiles conditions de vie dans un pays pourtant très riche en pétrole. Et voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Et maintenant, un résumé des nouvelles économiques en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco et nous retrouvons Namik Talani.
Le gouvernement sénégalais a lancé la seconde phase du programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural pour un coût global de 48,5 milliards de francs CFA. Ce nouveau volet d'une durée de 6 ans concernera 4 régions, Tombakunda, Kolda, Matam et Kédougou. Il cherche à améliorer les revenus des petits producteurs et créer des emplois durables et rémunérateurs pour les ruraux. Le PADER 2 doit toucher 44 500 ménages, soit environ 437 000 personnes. Le Zimbabwe interdit l'installation de nouveaux chauffe-eau électriques pour économiser l'énergie pendant que le pays subit de longues coupures d'électricité. Par contre, les gens pourront à leurs frais installer et utiliser des systèmes de chauffage à eau solaire. Le Zimbabwe connaît des délestages qui ont été exacerbés par les faibles niveaux d'eau des barrages de la plus grande centrale hydroélectrique et par les pannes constantes de générateurs au charbon. Pour terminer, le directeur namibien de la société d'investissement sud-africaine Investec démissionne après des allégations selon lesquelles il aurait dirigé un programme de pêche qui a généré au moins 150 millions de dollars de pots de vin. Le numéro 2 de l'entreprise a été suspendu en attendant les résultats de l'enquête. Ce scandale de corruption a aussi entraîné la démission du ministre de la Justice, ainsi que celui des pêches et des ressources marines. Ils auraient attribué des quotas à la plus grande entreprise de pêche du pays, Samergy, en échange de pots de vin.
Et maintenant, pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Suite de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021 ce soir.
Oui, entre autres matchs, la Mauritanie se déplace au Maroc à suivre aussi le duel maghrébin entre la Tunisie et la Libye. Hier, l'Égypte sans Mohamed Salah blessé a été tenu en échec par le Kenya 1-1. 1-0 pour les Comores devant le Togo. Le Mozambique a battu le Rwanda 2-0. 2-2 dans le duel ouest-africain entre le Mali et la Guinée. La jeune équipe malienne a mené au score avant de se faire rattraper. Son sélectionneur Mohamed Magasouba estime que ses poulains ont manqué de mental.
On a apporté des changements tactiques aussi et on a mis la pression sur l'équipe guinéenne. Ça a été une pression payante. Nous avons pu marquer des buts, le premier but notamment. Malheureusement, nous n'avons pas été très forts mentalement parce que ce qui reste à travailler dans une équipe jeune comme celle-ci, c'est le mental.
Mohamed Magasouba, coach du Mali. En face, le nouveau coach du Sili National se satisfait du point nul remporté. On écoute Didier Six.
L'objectif était pour nous de prendre des points ou un point. On sait la qualité de cette équipe du Mali. Je connais la qualité de mon équipe. Nous avions décidé avec mon staff de jouer d'une certaine façon. Quand on ressort ce soir avec le match nul ici à Bamako, je dis chapeau à mes joueurs.
Didier Six, coach de la Guinée. Des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Ailleurs, le Ghana a dominé l'Afrique du Sud 2-0. L'Algérie, championne en titre, a été sans pitié devant la Zambie laminée 5-0. 0-0 entre la République démocratique du Congo et le Gabon. Un bon résultat selon le coach des Panthères, Patrice Neveu.
On était venu ici avec l'intention de faire un résultat minimum de prendre un point parce qu'on savait qu'on allait rencontrer une équipe solide. Maintenant, on est quand même content d'avoir fait un résultat positif ici. Pour nous, c'est un résultat positif. L'équipe est en reconstruction.
Patrice Neveu, sélectionneur du Gabon. Par contre, les fans des Léopards avalent difficilement ce point remporté à domicile.
Nous commençons très bien le match. Nous avons un milieu qui joue très bien. L'offensive même, n'en parlons pas avec Mpoukou et Bakambu. Mais il arrive un temps où nous ralentissons le jeu. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est la fatigue?
Des propos recueillis par Anastasie Tudiesh, notre correspondante à Kinshasa. Les matchs de cette première journée se terminent demain avec l'entrée en lice du groupe K à suivre Madagascar, Éthiopie et Côte d'Ivoire, Niger.
De nouveau qualifiés pour l'Euro 2020 en Europe.
La France, l'Angleterre, la République tchèque et la Turquie se sont qualifiés hier. Les Français ont bénéficié de leur ticket avant même de jouer contre la Moldavie battue 2-1. Grâce au match nul de la Turquie contre l'Islande 0-0, l'Angleterre a atomisé le Monténégro 7-0 et la République tchèque a renversé le Kosovo 2-1. La France et la Turquie rejoignent les 6 nations déjà qualifiées que sont la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la Russie et l'Ukraine. Le Portugal, champion en titre, n'est pas encore qualifié, même s'il a écarté la Lituanie 6-0 avec un triplé de Cristiano Ronaldo, auteur de ses 96e, 97e et 98e buts en sélection.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Il est l'heure maintenant d'aborder notre segment magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Le secrétaire d'État américain a invité hier les États membres de la coalition formée pour combattre le groupe État islamique à rapatrier leurs ressortissants capturés dans les rangs du mouvement djihadiste, notamment en Syrie. Mike Pompeo s'exprimait à l'ouverture d'une réunion à Washington des ministres des Affaires étrangères de la coalition. Le patron de la diplomatie américaine a également souhaité que l'attention de la coalition sur le plan militaire se focalise désormais sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Modibo Dembélé a couvert pour nous hier au Congrès américain une autre réunion consacrée à la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne.
La réunion a été convoquée par la représentante démocrate Karen Bass. L'objectif des députés américains, c'était d'entendre la version des responsables du ministère des Affaires étrangères par rapport à ce que les États-Unis font dans la région du Sahel. On écoute la représentante Karen Bass.
Je suis préoccupée par la situation au Sahel depuis un certain temps, surtout à cause de la multiplication des violences. J'avais d'abord pensé à l'expansion militaire américaine dans la région, mais ce qui me tient le plus à cœur, c'est de s'assurer qu'il y a un équilibre entre diplomatie et développement avec l'engagement des services de défense américains.
Le représentant du Congrès, Smith, a donné les raisons de l'instabilité dans la région.
Les raisons de l'instabilité dans la région sont multiples, de la mauvaise gouvernance à la radicalisation islamiste, de la dégradation environnementale au conflit interethnique. On ne peut pas non plus minimiser les conséquences de notre intervention désastreuse en Libye en 2011.
Quant à Cheryl Anderson, responsable adjointe au niveau du bureau Afrique de l'USAID, elle explique que la situation au Mali est très décevante parce que les signataires de l'accord d'Alger font très peu d'efforts pour son application.
Au Mali, les signataires des accords d'Alger font peu pour leur application. Les groupes terroristes exploitent les tensions intercommunautaires pour davantage atténuer les efforts américains. Et le gouvernement a largement échoué de prendre ses responsabilités pour imposer son autorité en instaurant la sécurité. Nous sommes en contact avec le gouvernement malien, avec ses voisins et les partenaires internationaux pour faire des progrès et punir les mauvais acteurs. Le Burkina Faso a ses propres menaces terroristes combinées par les attaques transfrontalières des groupes extrémistes et ses capacités de se défendre sont limitées. Nous employons la défense diplomatique et des initiatives de développement pour aider à répondre à la crise et éviter que la violence se répande davantage. Quant au Niger, il a réussi à limiter les incursions terroristes. Malgré l'insécurité au niveau des quatre frontières, le Niger est un partenaire dans un mauvais voisinage. Malgré tout, nous pensons que la réponse sécuritaire est insoutenable. Le Niger dépense près de 25% de son budget sur la sécurité et cela joue sur ses investissements pour ses populations.
Les participants ont attiré l'attention sur les risques de propagation de la violence dans les États côtiers voisins si des mesures adéquates ne sont pas prises.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao au Mali sur 92.9 FM.
Et maintenant, direction Togo. L'homme d'affaires chinois fondateur de la plateforme de e-commerce Alibaba est en visite dans le pays. Hier à Lomé, Jack Ma a échangé avec une vingtaine de jeunes entrepreneurs francophones venus de plusieurs pays africains. Ils ont parlé de l'entrepreneuriat en Afrique et des secteurs prometteurs, notamment le e-commerce. Reportage à Lomé de notre correspondante Kylie Larson.
Ils étaient tous sur leur 31 pour cette rencontre avec l'homme le plus riche de la Chine. De jeunes entrepreneurs venus de 9 pays francophones d'Afrique ont pu apprendre de la vie et de l'expérience de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Pendant une heure d'horloge, ils ont abordé diverses thématiques, de la création d'une entreprise à son succès, en passant par les difficultés. Jack Ma est largement revenu dessus.
Apprenez de Diakman. Apprenez que Mon, il a perçu les difficultés. Que Mon, il a pu relever les défis. Et bien, comment il a échoué, s'est relevé et a recommencé. Dans ma vie, il y a deux mots. Échec et recommencer.
Le message est bien passé, nous ont dit ces entrepreneurs à la fin de la rencontre.
J'ai retenu beaucoup de choses. D'abord, qu'il faut être tenace, qu'un business, ça peut échouer, mais il faut toujours recommencer.
Jack Ma a insisté sur la place qui est accordée à l'humain dans la chaîne de valeur de la société Alibaba. Cyriac Bogou, cofondateur de l'incubateur Au Village en Côte d'Ivoire, dit avoir retenu cet élément essentiel.
Je repars avec ce truc très fort qu'il a dit. Il dit quand je recrute quelqu'un, je me dis que cette personne-là, dans 5 ans, peut être la personne qui va me remplacer. Et ça, je pense que dans nos mentalités africaines, c'est pas quelque chose que nous avons.
La ministre togolaise de l'économie numérique, Sina Lawson, revient sur l'importance de la présence de Jack Ma au Togo.
C'est la première fois que Jack Ma vient dans un pays francophone d'Afrique. Et pourquoi c'est important pour nous? Parce que lorsque vous connaissez un pays, vous avez rencontré les gens. Si vous voulez demain monter un projet en Afrique francophone, vous viendrez au Togo parce que vous direz « mais je les connais, je suis déjà venu ».
Les secteurs porteurs et les opportunités d'investissement en Afrique ont aussi été au cœur des échanges. Pour une meilleure croissance du continent, Jack Ma fait une suggestion axée sur 4 points.
Je les appelle les 4 E. Le premier E, c'est l'entrepreneur, c'est l'entrepreneuriat qui crée, qui produit. Deuxième E, c'est le e-gouvernement. Il faudrait que le gouvernement soit électronique, que le gouvernement soit transparent. Il faudrait que le gouvernement également soit efficace. Troisième E, c'est e-infrastructure, les infrastructures électroniques, avoir accès à l'Internet rapide. Et le quatrième E, c'est l'éducation.
Tout le continent africain devrait avoir un seul moyen de paiement mobile, pense le milliardaire chinois. Reste que ces conseils soient mis en application pour l'éclosion d'une nouvelle ère d'entrepreneurs. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
En Tunisie, on vous le disait un peu plus tôt, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, arrivé en tête des législatives, a finalement porté son choix sur l'ancien secrétaire d'État Habib Jemli pour former le prochain gouvernement. Le chef historique d'Ennahda, Rached Ghannouchi, a déjà été élu mercredi dernier président du Parlement. Habib Jemli doit être chargé formellement par le président de la République, Kaïd Saïd, un universitaire sans parti élu le 13 octobre, de former le gouvernement. Pour une analyse, Idriss Fall s'est entretenu avec Mourad Selami, rédacteur en chef de Dune Voices.
La constitution tunisienne dit que le parti qui est arrivé premier aux élections législatives, c'est lui qui nomme le chef du gouvernement. Le président de la République a appelé le chef du premier parti, qui est Ennahda, l'a chargé de nommer une personnalité pour le gouvernement. Ennahda a nommé Habib Jemli pour assumer cette responsabilité.
Est-ce que c'est gagné d'avance pour lui?
Pas évident du tout. Ce chef de gouvernement nominé doit rassembler les 109 voix nécessaires pour obtenir la confiance de l'ARP. Ennahda ne dispose que de 52. Donc il faut réunir une majorité autour de ce chef de gouvernement.
Et lui-même, il appartient à quel parti alors?
Lui-même, il n'est pas un membre d'Ennahda, mais il est proche d'Ennahda du moment qu'il a été... Pendant la Troïka, en 2012-2013, il a été secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture. Donc c'est quelqu'un qui est déjà habitué au rouage d'Ennahda, mais pas vraiment habitué au rouage du pouvoir. Pas vraiment exercé en poste de premier plan. Est-ce qu'il va pouvoir trouver une majorité parlementaire? Ça, c'est à Ennahda et à lui aussi de trouver les compromis politiques nécessaires pour réunir une majorité autour de...
Aussi, Ennahda a choisi Rached Ghannouchi pour devenir le président du Parlement. Il est au pré-choix, mais apparemment, c'était après une alliance presque contre nature avec le parti de Nabil Karoui.
Ils sont accusés de tous les torts pendant la période électorale. Et en plus, Les deux partis qui ont soutenu Ghannouchi à Parnassa sont Nabil Karoui et une autre, l'Alliance Al-Karama, qui sont les mécontents de Nasa. Ben, ces deux ne se sont même pas votés l'un pour l'autre pour les deux vice-présidents. Donc, le premier vice-président était une dame de Khalb Tounes, mais le deuxième vice-président qui est supposé être d'Al-Karama n'est pas parvenu à avoir la majorité. Donc, il n'a pas suffi qu'un Nasa et Khalb Tounes se soient alliés contre nature. En plus, si j'ose dire, cette élection était vraiment juste pour élire Ghannouchi et c'est tout.
Et comment les Tunisiens vivent tout ça?
Ben, les Tunisiens sont très contents d'avoir pu élire le président qu'ils veulent, à savoir Kais Saïd, qui a obtenu un plébiscite populaire. Mais ils ne comprennent pas encore que le président de la République n'a pas un véritable pouvoir, le régime étant essentiellement parlementaire. Mais on attend un peu les réalisations du nouveau pouvoir.
On écoutait Mourad Selami, il est rédacteur en chef de Dune Voices et il a été joint dans la capitale tunisienne.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Il est l'heure de notre gros plan sur l'actualité américaine, l'enquête parlementaire pour la mise en accusation du président Donald Trump est entré dans une nouvelle phase. Les audiences sont publiques depuis mercredi dernier. D'ailleurs, il y a celle de Marie Yovanovitch, l'ex-ambassadrice américaine en Ukraine, qui se déroule en ce moment même au Congrès américain. Les démocrates espèrent que ces audiences vont les aider à gagner le soutien de l'opinion américaine. Jim Malone, correspondant de la VOA, pose les enjeux de cette bataille. Le récit est de Lionel Gaïma.
Deux diplomates américains, George Kent et William Taylor, ont été les premiers à témoigner au Congrès. Selon Taylor, la Maison-Blanche a suspendu l'aide militaire en Ukraine pour faire pression sur le président ukrainien à mener des enquêtes sur son rival, Joe Biden.
Refuser cette aide sans autre raison que d'appuyer une campagne politique n'avait aucun sens.
Le démocrate Adam Schiff préside ces auditions.
Qu'est-ce que les Américains devraient maintenant attendre de leur président? Si ce n'est pas une mise en accusation, qu'est-ce que c'est?
Pour les républicains, ces témoignages sont de deuxième ou troisième main et finalement, l'Ukraine a reçu cette aide. Pour David Nunes, tout ceci est un complot démocrate de longue date visant à destituer le président.
Quiconque est familier avec la politique de la terre brûlée que les démocrates ont engagée contre le président Trump ne sera pas surpris de voir les signaux typiques d'une campagne de diffamation médiatique soigneusement orchestrée.
Le président Trump a toujours répété que c'est de l'arnaque et une chasse aux sorcières.
Il n'y a jamais eu de président aussi transparent. C'est une chasse aux sorcières au plus haut niveau et c'est mauvais pour notre pays.
Pour Susan Lowe Blatch de l'université Georgetown, les démocrates espèrent que ces audiences feront basculer l'opinion publique.
Ce n'est pas une situation où la Chambre des représentants et le Sénat veulent renvoyer quelqu'un parce qu'ils ne l'aiment pas. Ce serait une erreur et ce n'est pas ce qui se passe ici. Mais c'est aussi un processus politique qui a besoin du soutien du public.
Le pays reste profondément divisé, Ramesh Pounuru de l'Institut américain de l'entreprise.
Je pense qu'il reste à savoir quel sera l'impact de la mise en accusation sur les élections de 2020. Pour le moment, cela ne fait que renforcer les opinions des partisans de chaque camp.
Pour John Fortier, du Centre des politiques bipartisanes, les démocrates auront quand même besoin d'élaborer un dossier bipartisan.
Pour qu'un président soit destitué, cela signifie que les deux parties, une part importante de chaque camp, l'acceptent.
Richard Nixon a démissionné en 1974 au plus bas de sa cote de popularité. En 1999, Bill Clinton a survécu un procès au Sénat. À l'époque, une grande partie des Américains rejetait les efforts des Républicains pour le destituer.
Et voilà, Le Monde Aujourd'hui prend fin ici. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite un très bon week-end sur VOA Afrique.